Radio Prague, les informations. Bonjour, le pétrole et le gaz étaient au centre des préoccupations du président tchèque en visite en Azerbaïdjan. Énergie nucléaire, le ministre français Éric Besson est à Prague, c'est mercredi et jeudi. Et puis enfin politique, le parti Affaires publiques pourrait quitter la coalition gouvernementale. Le président de la République, Václav Klaus, a poursuivi ce mercredi sa visite officielle en Azerbaïdjan. Mardi, le chef de l'État tchèque a notamment été reçu par son homologue, Ilham Aliyev. Bakou et Prague souhaitent intensifier leur coopération dans le domaine énergétique. Actuellement, un quart du pétrole importé par la République tchèque provient déjà d'Azerbaïdjan. Selon le président azerbaïdjanais, son pays pourrait également fournir du gaz, ce qui permettrait à la République tchèque d'être moins dépendante des livraisons en provenance de Russie. Par ailleurs, Václav Klaus est accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise. Il s'agit en effet de la quatrième délégation la plus importante de ces dernières années lors d'un voyage du président tchèque. Le ministre français chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, Éric Besson, entame ce mercredi une visite de 2 jours en République tchèque. Une rencontre avec le ministre tchèque de l'industrie et du commerce, Martin Kocourek, est prévue à l'ambassade de France mercredi soir lors d'une réception organisée en l'honneur de la coopération nucléaire franco-tchèque. Cette réception sera marquée notamment par la signature d'un accord bilatéral de coopération, puis suivie d'un dîner entre les deux ministres pour le 6e forum européen sur l'énergie nucléaire. Jeudi, Éric Besson sera reçu par le Premier ministre Petr Nečas et s'entretiendra également avec le chef du gouvernement slovaque Iveta Radičová. Rappelons que lors de sa récente visite en France en février dernier, Petr Nečas avait déclaré que la France et la République tchèque faisaient partie des pays souhaitant aboutir à une renaissance de l'énergie nucléaire au sein de l'Union européenne, et ce notamment pour parvenir à une plus grande sécurité énergétique de l'Europe dans son ensemble. Par ailleurs, le groupe français Areva est un des trois candidats à l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelin, dont le montant des travaux pourrait s'établir à 20 milliards d'euros. Le résultat de l'appel d'offres pour la construction de 2 nouveaux réacteurs devrait être annoncé en 2013. Et puis, environ 230 jeunes physiciens nucléaires en provenance du monde entier sont réunis à Prague pour 3 jours à l'occasion du 6e forum européen sur l'énergie nucléaire. À cette occasion, ils discuteront par exemple de la sécurité de l'énergie nucléaire suite au tremblement de terre au Japon et de l'accident à la centrale de Fukushima, de la gestion des déchets radioactifs, de la médecine nucléaire ou encore de la fusion nucléaire, qui pourrait constituer à l'avenir une source d'énergie propre et inépuisable. Les affaires publiques, plus petites des 3 formations de la coalition gouvernementale, pourraient quitter celle-ci. C'est ce qu'a déclaré mercredi le leader du parti, Radek Yon. Celui-ci a toutefois précisé que si un tel cas de figure devait se produire, les députés des affaires publiques pourraient néanmoins continuer à soutenir au Parlement les projets de réforme envisagés par le gouvernement. Selon Radek Yon, un départ des affaires publiques a déjà été envisagé à plusieurs reprises ces derniers mois, mais le Parti civique démocrate et Top 09, les deux partis partenaires au sein de la coalition, ont à chaque fois préféré conserver la coalition dans sa composition actuelle. Les dirigeants des affaires publiques sont confrontés depuis plusieurs semaines à une série de scandales relatifs aux méthodes douteuses de direction et de financement du parti. Le pilote automobile Karel Loprijs, 6 fois vainqueur du Rallye Dakar au volant de son camion Tatra, a été nommé ce mercredi commissaire en charge de la sécurité routière par le ministre des Transports, Jakub Ptaczynski. Ce dernier a expliqué qu'il souhaitait exploiter le nom, l'expérience et les connaissances de Karel Loprijs en matière de circulation routière pour faire la publicité de la sécurité au volant. Le ministre a cependant ajouté que les détails concernant ses fonctions et sa mission concrète restaient encore à préciser. On termine avec un mot de météo. Comme mercredi, le temps reste plutôt ensoleillé ce jeudi, jour de la fête des Ivos. Des nuages feront toutefois leur apparition au fil de la journée et entraîneront quelques averses et orages à caractère local. Les températures sont en légère hausse et varient entre 24 et 27 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie. Et tout de suite, retrouvez Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Guillaume Narguet pour le bulletin d'information. Vous êtes toujours sur Radio Prague à l'écoute du programme en français. Un programme très culturel aujourd'hui avec un hommage au compositeur Gustav Mahler, mort il y a exactement 100 ans. Et puis avec de l'art contemporain aussi, la Biennale qui commence jeudi dans la capitale tchèque. Vous en saurez plus dans un instant, ce sera avec Anna Kubišta, juste avant un nouveau chapitre de l'histoire consacré une nouvelle fois à la Deuxième Guerre mondiale. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce programme. Je suis trois fois apatride, a dit Gustav Mahler, en tant que Tchèque parmi les Autrichiens, en tant qu'Autrichien parmi les Allemands, en tant que Juif dans le monde entier. Partout, je suis un intrus, nulle part je ne suis chez moi. Ce mercredi 18 mai, 100 ans se sont écoulés depuis la mort de cet homme compliqué, énergique et difficile, qui était un compositeur génial. Son œuvre, qu'il ne s'est imposée qu'avec de grandes difficultés, clôture la musique romantique et ouvre des horizons immenses à la musique moderne. Václav Richter.
La vie de Gustav Mahler a été une suite de contradictions et de conflits qui étaient probablement la force motrice de son génie créateur. L'écrivain Zdeněk Mahler, parent éloigné du compositeur, lui a consacré un livre biographique. Il s'interroge sur les traits spécifiques du caractère de ce grand symphoniste.
A velmi často tak říkající uměl dělat nepřátele.
Il savait, comme on dit, se faire des ennemis. Il n'est pas possible de le décrire simplement, j'utiliserai même la métaphore suivante, de même que nous avons assisté dans les dernières décennies à la naissance de la philosophie postmoderne et de la poétique postmoderne qui entremêle les genres, les niveaux et les aspects de la connaissance. Tout cela existe déjà dans sa musique et évidemment dans le passé déjà, cela ne plaisait pas.
Gustav Mahler est né le 7 juillet 1860 dans la commune de Kalisztě, non loin de la ville de Jihlava sur le plateau tchéco-morave. Était-il tchèque, était-il autrichien, était-il juif? Il a été tout cela. Toutes ses influences sont reflétées dans sa création, mais la portée de son œuvre est universelle. Le centenaire de sa mort est donc évoqué dans de nombreux pays. Les concerts de ses œuvres sont donnés à Vienne, à Berlin. Un festival intitulé « La musique des mille » Mahler Jihlava 2011 se poursuit depuis ce dimanche dans la région de Jihlava, pays de sa naissance et de son enfance. Le nom de Gustav Mahler domine également le programme du festival Printemps de Prague. Le directeur du festival, Roman Bielor, évoque les principales manifestations mahleriennes de la 66e édition de cette fête de la musique.
My jsme právě na 18. května připravili po téměř 20 letech provedení 8.
Nous avons préparé pour ce festival l'exécution de sa 8e symphonie, Symphonie des Mille, qui est l'une des œuvres majeures du répertoire symphonique mondial. Český rozhlas, Radio Public Tchèque, a proposé ce concert dans le cadre de l'Union européenne de radio-télévision, UER, à l'Association européenne des radios, et le concert sera retransmis dans 9 pays. C'est donc un grand événement aussi au niveau européen.
Le concert donné ce mercredi est une coproduction du festival avec la Norddeutscher Rundfunk, radio de l'Allemagne du Nord, et l'orchestre symphonique de cette radio. Y participe également l'orchestre philharmonique tchèque, 6 chœurs, 8 solistes, un chef d'orchestre. La direction musicale de cette production gigantesque, qui réunit presque 500 exécutants, a été confiée au chef d'orchestre Christoph Eschenbach. Roman Bielor constate qu'avec ce concert, le festival s'ouvre à de nouvelles possibilités.
Comme une telle production nécessite des moyens immenses, nous avons décidé de donner ce concert dans le Palais des Sports, O2 Arena. C'est donc une grande nouveauté dans l'histoire du printemps de Prague. Nous entrons maintenant dans les stades. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit là d'une tendance générale, mais cette œuvre unique exige une telle solution.
Není to nějaký jednoznačný trend, ale toto výjimečné dílo si to žádá.
Après le concert, tous les exécutants partiront en Allemagne où l'œuvre sera présentée encore deux fois. L'œuvre de Gustav Mahler sera d'ailleurs à l'honneur tout au long du festival. Au programme, il y a aussi deux autres de ses symphonies, la deuxième qui sera interprétée par l'Orchestre symphonique de San Francisco et la sixième qui sera exécutée par l'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Sir Simon Rattle et mettra un point final au festival. Le public pragois entendra aussi l'avant-dernière œuvre achevée du compositeur Le Chant de la Terre, symphonie avec voix, qui peut être considérée comme son testament artistique et humain.
Suite de ces faits et événements avec de l'art contemporain, à partir du 19 mai et jusqu'au 11 septembre se déroule la 5e édition de la Biennale de Prague, un des événements phares de l'art contemporain dans la capitale tchèque. Plus de détails avec Anna Kubišta.
Pour sa 5e édition, la Biennale de Prague change de lieu. Fini l'ancienne fabrique de Karline, bonjour le quartier de Modřany. Soit un lieu un peu plus excentré, mais un bâtiment non moins intéressant, le Mikrona, grande bâtisse de l'époque communiste, où se trouve d'ailleurs un des derniers bunkers construits dans l'ex-Tchécoslovaquie. C'est là qu'une partie de l'exposition de la Biennale est installée. Blanka Prokhraskova est une des organisatrices de ce rendez-vous bisannuel de l'art contemporain dont elle nous rappelle les objectifs.
Le but, c'est de faire la promotion de l'art tchèque et slovaque et bien sûr de le confronter avec ce qui se fait au niveau international. Malheureusement, jusqu'à présent, il y a peu d'événements de ce genre qui se déroulent. Le public tchèque n'a pas la possibilité de voir de grands noms, de grandes expositions internationales. Il n'y a que le Rodolfinum qui fait des choses intéressantes. Donc cet événement n'est pas seulement le plus important en République tchèque et en Slovaquie, mais en Europe centrale.
Créée en 2003, la Biennale de Prague s'est d'abord déroulée en collaboration avec la Galerie Nationale de Prague. Seulement des bisbilles avec son très controversé directeur Milan Knijak ont très vite sonné le glas de l'événement. La Galerie Nationale décidant d'organiser sa triennale et la Biennale continuant son petit bonhomme de chemin de son côté sous la houlette des commissaires Giancarlo Politti et Helena Kontova. Si à 500 km au nord de Prague, Berlin est un chaudron bouillonnant de talents, Prague est un peu à la traîne pour l'art contemporain, même si elle essaye de faire des choses à sa mesure. Blanka Prokhraskova.
Évidemment, si on la compare à Berlin, on en est loin. Berlin est la Mecque de l'art contemporain aujourd'hui, presque plus que New York. Prague est petite, le pays aussi, on ne peut pas comparer. Nous cherchons avant tout à montrer ce qui se fait à l'étranger. Notre biennale comprend toujours 10 sections qui concernent chaque fois une région du monde. Par exemple, là, les visiteurs pourront découvrir ce qui se fait à l'heure actuelle à Berlin dans la section des artistes berlinois, qui ne sont d'ailleurs pas tous allemands.
À noter en effet qu'un Français figure parmi ces artistes. Et puis, il y a également une section qui présente l'art contemporain au Québec. Et parmi les temps forts de la Biennale de Prague, cette année, une section entière dédiée à l'art contemporain indien, peu connu en Europe, mais qui devient en vogue ces derniers temps. Blanka Prokhraskova.
Chaque année, chaque section a son commissaire qui choisit les artistes qu'il souhaite présenter. Cette année, on a une section vraiment incroyable, la section de l'art contemporain indien. J'aimerais vraiment insister là-dessus parce que normalement, il y aurait dû en avoir une à la Biennale de Venise qui a été annulée. Nous l'avons. Juste après notre vernissage, ces artistes et la commissaire indien partiront en direction du centre Pompidou pour une autre exposition. Autre section intéressante, celle d'artistes roumains, hongrois et moldaves.
Voilà, et pour tous les détails de cette 5e Biennale de Prague, c'est au www.praguebiennale.org.
Merci à Anna Kubišta. Maintenant, comme tous les mercredis, c'est un nouveau chapitre de l'histoire et on reparle de la Deuxième Guerre mondiale en Bohême-Moravie.
Chapitre de l'histoire.
Le 8 mai dernier, nous célébrions les 66 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Aujourd'hui, nous revenons sur le rôle des nazis en Bohême-Moravie et plus particulièrement sur un protagoniste que nous avons évoqué dans un des précédents chapitres de l'histoire, Adolf Eichmann. Question slave, question tchèque, voici des aspects méconnus de l'idéologie des nazis et de leurs projets en Europe centrale et orientale. Certes, et c'est la différence avec la question juive, lorsque Heydrich évoque ses projets pour l'avenir des Slaves, il s'agit surtout de mobilisation idéologique. Nous sommes dans un plan à long terme, repoussé à l'après-guerre, mais on sait aussi que l'une des spécificités du nazisme, c'est ce passage si rapide du verbe à la réalité, du fantasme idéologique à la réalisation pratique. Le journaliste Stanislav Motel évoquait avec David Alon la question slave.
Tenhle národ, když mluvím o Češích, tak byl rozdělen do tří kategorie, to skutečně rozdělili.
Dans le protectorat de Bohême-Moravie, les Tchèques étaient divisés en trois groupes. En premier, les irrécupérables. Pour eux, c'était la liquidation immédiate. C'était le cas des juifs, des communistes, des sociodémocrates et des intellectuels. Liquidation. Le deuxième groupe devait être épargné et rester en vie. Mais ces gens devaient être enrôlés pour le travail forcé de la mer du Nord jusqu'à la Patagonie en Amérique latine. Et puis il y avait un troisième groupe, celui des Tchèques germanisables.
S'il s'agissait là d'un plan à long terme, Stanislav Motel rappelle que des examens raciaux avaient déjà commencé à être pratiqués pendant la guerre.
Des tests ont commencé à être entrepris par les nazis. Je repense à l'un de ses protagonistes. C'était le chef des jeunesses hitlériennes pour la Bohême-Moravie. Puis il est devenu le secrétaire personnel de Reinhard Heydrich. Après la guerre, il fera carrière au Bundestag, le Parlement ouest-allemand. Il fut député jusqu'aux années 1970. Il avait écrit une thèse sur la manière de germaniser la nation tchèque. Il y soutenait, par exemple, que les plus aptes à cette germanisation n'étaient pas les habitants de Bohême, mais les Moraves.
On tam napsal, že lépe ke germanizaci nejsou ani tak Češi, ale lidi z Moravy.
Et ces tests, explique Stanislav Motel, concernaient autant les adultes que les enfants.
Pak je test na dětech. Je třeba známý třeba tyhle ty germanizační, že už když třeba byly lidice.
Il y a eu aussi des tests sur les enfants. Cela a commencé par exemple avec Lidice en 1942. Lorsque les enfants séparés de leur mère furent amenés à l'école, on leur dit qu'on pratiquerait sur eux des tests. C'était une équipe de médecins de Prague qui devait s'en occuper. Ils devaient mesurer les têtes, etc. On a beaucoup écrit sur ce sujet, mais surtout en Allemagne. À la mort d'Heydrich, une fondation à son nom est créée qui doit s'occuper de l'évaluation de la qualité raciale des Tchèques. Il y a des histoires folles, comme par exemple ce médecin qui travailla à la germanisation des Tchèques. Il vivra ensuite en République démocratique allemande, Allemagne de l'Est, dont il deviendra le chef de la délégation auprès de Staline.
Pour les Juifs, la question devait en revanche trouver une réponse immédiate. Et ce sera le génocide, déjà bien avancé avant même la fin de la guerre. D'où cette idée, connue, mais encore sujette à débat parmi les historiens, de la fondation, par les nazis, d'un musée de la race disparue à Prague. Pour Stanislav Motel, la réalité de ce projet ne fait aucun doute.
Mais cette histoire de projet d'un musée juif à Prague est avérée. Il s'agissait dans l'esprit de ses concepteurs d'une sorte de skansen de la race disparue. Beaucoup de pièces devaient provenir de Pologne, d'Ukraine, etc., de pays où la communauté juive était importante avant la guerre.
Ma question qui se pose à Stanislav Motel est pourquoi Prague ?
Tak Praha byla odvěka, pro ně byla odvěka německé město, protože to byl Guldenstadt, že jo.
Prague était perçue comme une ville allemande par excellence. C'était la Goldenstadt, la ville dorée. C'était donc un choix symbolique aux yeux des nazis. Et Prague représente d'abord une vieille ville allemande, une ville des origines. Ils ne se sentaient pas à l'aise à Varsovie ou même à Moscou. Mais Prague était leur ville. Par une ironie de l'histoire, Prague est aujourd'hui un centre du patrimoine juif en Europe à cause de ce projet. C'est parce qu'ils voulaient y établir ce musée que les nazis épargnèrent de la destruction la plupart des monuments juifs à Prague.
Ten skandal chtěli udělat, tak se paradoxně zachovalo i strašně moc židovských památek.
En 1946, comme nous l'avons vu dans un précédent chapitre de l'histoire sur Radio Prague, les autorités tchécoslovaques déclarent n'avoir rien à reprocher à Eichmann sur leur territoire. Plus généralement, il est encore inconnu jusqu'aux années 50, pourtant il a eu un rôle direct en Bohême-Moravie et pas seulement en Pologne ou en Hongrie, comme en témoigne l'historien Michal Frankel.
Eichmannův vztah ke genocidě českých židů je poměrně...
Le rôle d'Eichmann dans le génocide des Juifs tchèques est aujourd'hui bien connu et largement documenté dans la littérature. Cela dans deux domaines. Tout d'abord, Eichmann participa à la création de l'Office pour l'émigration des Juifs à Prague en 1939, fondé sur le modèle de l'Office viennois, qui était une œuvre d'Eichmann. Il avait amené à Prague quelques membres de son équipe. Au début, Eichmann dirigeait officiellement l'Office à Prague, même si, en fait, il n'a jamais vraiment vécu dans la capitale tchèque.
Mais la réelle portée de la responsabilité d'Eichmann dans le génocide juif apparaît en filigrane dès avant la tenue de son procès à Jérusalem en 1961.
Plus tard, quand il est découvert dans les années 1950, on ne savait encore rien sur lui, il devient, à côté de Mengele, l'icône de la solution finale de la question juive. C'est alors que certains historiens tchèques, comme Václav Kral, font le lien entre Eichmann et Heydrich. La deuxième implication d'Heydrich dans le sort des juifs pragois se trouve au ghetto de Térésin. Le ghetto était placé sous la responsabilité des SS. Eichmann s'y rendait assez souvent et avait beaucoup d'influence sur le développement du ghetto. Il y possédait un bureau que les détenus devaient nettoyer.
Museli čistit, a, ale i třeba třetí židovský starší v Terezíně, Benjamin Murmelstein.
L'un des détenus les plus âgés de Térésine, Benjamin Murmelstein, se rappelait très bien d'Eichmann. De manière symptomatique, Murmelstein, témoin clé, ne sera pas invité à Jérusalem lors du procès Eichmann en 1961. En effet, il représentait un aspect encore tabou en Israël à cette époque, celui des conseils juifs, créés dans les ghettos par les Allemands. Ces conseils passaient pour avoir collaboré, ce qui, dans la réalité, ne fut pas vrai.
C'était l'historien Michal Frankel, et c'est la fin de ce chapitre de l'histoire proposé par David Allon. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est également la fin du programme en français de Radio Prague. Vous nous retrouvez sur Internet, vous le savez, l'adresse est www.radio.cz, www.radio.cz, et comme d'habitude, on se quitte en musique.